J'ai envie de vous demander si c'est pas aussi un échec de la critique de finalement ne parler que des films qui arrivent de manière évidente en salle, alors que le cinéma asiatique, il y a toute une partie qui n'existe pas dans le système de distribution traditionnel. Peut-être, Sidi, je vais te laisser répondre, puisque tu es aussi le co-auteur donc, d'un livre qu'on peut trouver actuellement, La critique de cinéma à l'épreuve d'Internet. Hein. Oui. Et donc, ça serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus.
Est-ce que la critique joue son rôle d'éclaireur, c'est ça, aujourd'hui?
Aujourd'hui, sur des films qui ne sont pas aussi évidents d'accès que la distribution et la salle de cinéma.
Moi, je rajouterais une sous-question, en fait. Est-ce que tu ne penses pas que la critique, en fait, guide le choix des spectateurs pour les films, en fait? Et je me demande s'il n'y a pas des fois des contrats secrets entre la distribution, la production et les critiques, quoi. Pour te dire, on a choisi de parler que de ce film-là, on va vous faire tout un cahier dessus. Et puis celui-là, le Dragoir de John Ito, il ne va pas intéresser le public pour X raisons, donc on va complètement le zapper, même si éventuellement ce sera un bon film, nous, en tant que critique.
Moi, je pense que la critique reste heureusement protéiforme, c'est-à-dire que même si effectivement il y a des publications qui doivent faire certaines concessions pour des raisons essentiellement commerciales, elles ne peuvent pas forcément se permettre de ne pas mettre en avant les films, effectivement, qui vont parler aux masses. C'est un terme assez horrible, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Au grand public, quoi.
Voilà. C'est peut-être un petit peu plus difficile pour les publications un peu officielles de prendre certains risques, effectivement, et d'essayer de faire un vrai travail de recherche dans certains territoires, comme le faisait Serge Danet jadis, notamment, dont on a un petit peu parlé dans notre livre, effectivement, parce qu'il représentait un peu ce... Notamment dans le texte de Fabien Alloy qui parle un petit peu du rapport de Serge Danet au monde. C'est-à-dire que lui, sa cinéphilie était fondamentalement liée à cette question de recherche du monde, de l'autre, de l'altérité. Il voyageait beaucoup. Et c'est vrai qu'il allait dans les festivals pour permettre à son lecteur, notamment dans Libération, de savoir ce qui se passe là où lui ne peut pas tout de suite... avoir accès à des cinématographies. Tu veux parler, Julien?
Non, mais j'ouvrirai juste une parenthèse, oui. Parce que c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Et moi, j'ai mis une hypothèse, une forme de proposition, en fait. Mais justement, est-ce qu'on pourrait pas scinder la critique de publication en deux? C'est-à-dire que tu as une publication papier, justement, qui est destinée au grand public, qui sert à une sorte de guide pour qu'est-ce qu'il faut voir pendant le mois, et qui a du cinéma positif, etc. Et tout le reste, en fait, finalement, les pépites qu'on découvre en festival, les DVD inconnus, les découvertes au coin de la rue, dans un cinéma abandonné, se ferait en fait à travers un site internet, le blog en fait, qui lui est ouvert à tous, où tout le monde pourrait aller chercher ces informations.
Bah oui, après il y a cette question
qui n'est pas reconnue, mais voilà. T'aurais le site du cahier des cinémas où on parlerait des découvertes, et t'aurais le mag du cahier du cinéma où en fait là on traite vraiment.
Il y a eu il y a quelques temps un forum des cahiers du cinéma, mais qui est devenu autre chose justement.
Mais justement, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Est-ce que c'est un manque d'effectifs? Est-ce qu'ils ont.
L'argent?
Oui, c'est ça, c'est aussi cette question économique, vu la situation de la presse. Après, oui, sur Internet, la question se pose. Est-ce qu'Internet est effectivement le lieu où on peut le plus se permettre de sortir un petit peu du cadre? Il y a cette question de la professionnalisation, c'est-à-dire qu'il y a plein de blogueurs marginaux qui se font un point d'honneur de parler de choses dont, justement, ne traite pas la presse écrite, dont ne traite pas les supposées grandes revues. Donc il y a une certaine défiance de certains blogueurs ou de certains jeunes sites internet vis-à-vis de l'institution critique qui ne fait, selon eux en tout cas, plus son travail. Et je sais pas tellement où on va à ce niveau-là, la question est très large, et lorsqu'on lit notre livre, justement, on se rend compte qu'on n'est pas forcément d'accord sur tous les points, il y a vraiment plein de points de vue là-dessus.
Donc une coalition sera impossible finalement entre la critique professionnelle et la critique de blog ou...
Déjà, je pense que qu'on le veuille ou non, il y a une hiérarchie. Lorsque j'avais lancé ma série d'entretiens Parole d'Allier il y a 2 ans sur mon blog, le sous-titre c'était pour une contre-hiérarchie critique, et ça se basait justement sur cette question-là. Et je pense que, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours une scission entre les centres d'intérêt de ceux dont la critique est. Et la profession et les autres, quoi. Donc ça va faire bondir certains auditeurs, mais j'assume parfaitement mes propos. Après, si certaines personnes ont un point de vue différent,
Samir.
C'est pas si différent que ça, mais moi c'est très simple. La critique de cinéma aujourd'hui, elle est pas curieuse du tout.
Il n'y a aucune curiosité pour répondre à ta question.
Non, mais c'est justement ça le problème.
Prenons un exemple très simple.
C'est justement, ils vont servir.
Je suis d'accord avec toi.
Ils prennent de la critique pour eux, alors qu'ils devraient penser peut-être au spectateur qui a envie de découvrir autre
chose. Elle n'est pas curieuse. Tu parlais de Serge Danet, parlant d'une personne qui est encore vivante, en parlant de quelqu'un qui fait rebondir certains critiques cinéma actuels, qui est Jean-Michel Frodon, qui est pratiquement parmi les seuls de sa génération à être curieux, à parler de films qui passent dans des festivals, qui malheureusement ne sont pas encore distribués, mais qui en parlent. Il dit voilà, attention, il y a un film quand même qui est là. Enfin, Tahrir, qui est peut-être le plus beau film sur les printemps arabes, qui a été présenté, il l'avait vu avant pas mal de personnes. C'est un film fascinant, réalisé par un réalisateur italien. Donc je trouve ça fascinant que le plus beau film sur les printemps arabes soit réalisé par un cinéaste qui n'a rien à voir, qui n'a aucune origine avec le Moyen-Orient. Et donc Frodon fait partie de ceux encore qui est curieux. Et je vais donner un petit exemple, un simple exemple. Mille Soleils,
de Mathieu Diop,
qui est un film incroyable, magnifique. Bouleversant, qui est un film de fiction, qui n'est pas un documentaire. Certains critiques de cinéma pensaient que c'était un documentaire. On parle comme si c'était un documentaire, donc ça me fait assez rire. Mais
le dossier de presse était mal fait.
Voilà, aussi peut-être, mais Mille Soleils est un film qui a été produit et réalisé, non pas cette année, mais il y a déjà 2 ans de cela.
Moi,
je me rappelle d'avoir fait mon top 10 l'année dernière en mettant dans mon top 10 Mille Soleils. Et c'est un film qui a bourlingué dans les festivals. Il n'y a aucune curiosité de la part des critiques de cinéma, surtout de notre génération.
Ah, il fait partie du top 10 des Inrocks.
De notre génération, c'est impressionnant. Ouais,
je dirais que t'es un peu dur aussi, parce que pas forcément la curiosité des critiques que je mettrais en cause, mais la difficulté de trouver un endroit hors Internet, c'est-à-dire hors espace économiquement viable, pour en parler. Si tu travailles dans une rédaction de cinéma, il y a forcément des contraintes parce qu'il y a des pages de publicité qui sont achetées. Il faut parler des films pour lesquels il y a des pages de publicité.
Mais moi, je te parle plutôt des rédactions actuelles dont la plupart de la presse écrite, la plupart se retrouvent sur le net. Ils ont tous un site sur Internet. Et tu vois comment les quelques films qui sont traités, qui ont peut-être 2 ou 3 copies, qui viennent de pays je ne sais d'où, qui sont traités d'une manière très volage, c'est ça qui est arrivé. Et alors que tu aperçois, je continue encore à croire que notre génération n'est pas assez curieuse, ne s'arrête uniquement aux films qui sont distribués.
Et genre, c'est pas moyen de survie, en fait.
C'est pire que ça.
T'es obligé de parler de ce qui va être distribué et pas du reste, parce que si tu le fais pas, ou que tu t'en fais moins, et c'est triste à dire, en fait, tu vas mourir aussi. C'est le cas de la presse écrite. Hein,
pas les critiques de cinéma. Un critique de cinéma, par définition, désolé, je vais être assez radical là-dessus, peut-être que vous ne m'inviterez plus pour les prochaines émissions, mais un critique de cinéma, par curiosité, par définition, est curieux. Point final. Il doit être curieux. C'est lui qui est l'intermédiaire entre les réalisateurs et les spectateurs. C'est lui qui doit dire aux spectateurs, moi j'ai vu tel film, c'est intéressant,
peut-être que
vous le verrez un jour.
D'accord, mais j'ai l'impression
qu'il est contraint. Sur quel espace,
à son
environnement. En tout cas,
t'as une question de rubrique aussi.
N'importe qui peut créer son blog.
Dans ta presse écrite,
quelqu'un qui travaille, par exemple, je cite des noms, aux Inrock, au Télérama, ou je ne sais où, tu sais, tu dis, je travaille pour Télérama, j'ai ouvert un petit blog à côté qui s'appelle Ma cinématographie, tu vas être lu par tout le monde, et tu peux commencer déjà à parler de choses que tu as vues dans les festivals à droite à gauche.
Mais oui, mais ça serait génial.
Et c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut faire.
C'est ça qu'il
faut faire déjà. C'est ça qui est. On n'a plus droit à l'erreur, on a Internet.
Ah oui, c'est justement d'avoir les deux. D'avoir une critique presse écrite qui sert un peu de guide, mais aussi pourquoi pas donner une rubrique avec un film découverte, on va dire. Et dans le blog, tu auras vraiment le détail. On est en festival, on a vu 50 films. On sait qu'il n'y en aura que 5 qui vont être distribués en France, mais on a décidé de parler des 45 autres, même des bouses.
Qui
sont montrés sur Internet.
C'est ça qui est.
Voilà.
Mais justement, quand Samir parle de
ça, c'est accessible, c'est disponible.
Ouais. Mais est-ce qu'on visiterait un parfait inconnu
parce que ça serait des blogs rattachés en fait au site principal.
C'est
comme Istasia où finalement tu as des blogs.
Ouais.
C'est comme Istasia où tu as le site mère, où tu as l'actu du cinéma asiatique, et tu as des blogs qui marchent très bien au niveau des audiences, que ce soit dans les séries télé, dans les jeux de rôle de Nayanik. On a quoi d'autre ?
je sais pas, des comics, non, il paraît qu'il
fait des sujets plus isolés sur les comics.
Il se repose en ce moment, les comics.
Voilà. Il fait,
et ça, ça marche aussi.
Il y a beaucoup de
je crois qu'il y a des blogs, il y a des blogs sur les inrocs aussi, où tu peux construire ton propre blog, tu as des blogs sur des sites de voyage, où tu racontes ton tour du monde. Et ça, je pense que c'est extrêmement suivi, quoi. Surtout avec les réseaux sociaux de nos jours, où tu peux partager, suivre de manière très simple, c'est même presque de la surinformation, tout ce qu'on a à chaque fois, tous les matins. Mais je pense que c'est l'une des solutions, enfin en tout cas pour la pardon, pour la presse, d'avoir au moins l'opportunité d'avoir accès à ce type de
d'écrit. Nicolas.
Bah en fait pour rebondir là-dessus, après on parlait de la curiosité donc du critique, la curiosité du spectateur. Le problème c'est que, comme vous l'avez oui, il y a la presse est encore assez lue, mais plus trop en fait. Elle est quand même des baisses d'audience à ce niveau-là.
Elle est dispatchée.
Par rapport à la vente, aux ventes,
voilà, dispatchée. En fait.
Mais tu l'avais dit, Elvire, je crois, c'est toi qui l'avais dit dans un précédent podcast, où les spectateurs, le public large, entre guillemets, s'intéresse plus à quel film on va parler au journal de TF1, de France 2, de France 3.
En amont, c'est la presse qui va dire. Donc si la presse est curieuse, bah, le spectateur va devenir curieux. Tiens, oui, c'est quoi ce film que j'ai jamais vu, ce film Kazakh?
Ce serait bien que ce soit comme ça, ce serait idéal même.
En amont, c'est la presse. C'est aussi les festivals, c'est aussi le producteur, c'est aussi le distributeur.
Il faudrait redéfinir toute l'économie du cinéma.
C'est ça, en fait.
C'est fini la période des années 70, si t'avais un critique de cinéma comme Jean-Louis Bourré qui disait « Ce film n'est pas terrible, faut pas aller le voir », et personne n'allait le voir.
Ça, après, c'est une seule personne aussi qui dit ça, c'est un peu c'est un oui, peu c'est l'effet un peu, contraire.
Ce que je veux dire, c'est qu'avant, effectivement, la critique avait quelque chose, avait une puissance, une popularité.
Là, où là t'as un matraquage du média. Quand tu vas dans le métro et que tu vois des dizaines d'affiches, t'as un message subliminal qui dit peut-être aller le voir, parce que le lendemain, au bureau, bah, je pourrais dire, bah, t'as fait quoi de ton week-end? Bah, je suis allé voir ce film. C'est comme voir le match du dimanche soir, j'ai vu PSG Lyon, ouais, bon, on s'est fait chier, mais bon, tout le monde l'a vu, donc je peux en parler.
C'est la même chose. C'est la famille Bélier qui a fait 2 millions d'entrées en 2 semaines.
Voilà, c'est exactement
parce que tout le monde dit que ça va cartonner.
Mais même avant la sortie du film,
qu'est-ce qu'on a fait?
Il y avait des affiches.
Une heure de tranquillité, quoi. Il n'y a aucune critique, parce qu'il y a eu forcément des clauses de confidentialité. Voilà, pas de critique avant le jour de la sortie.
Ouais.
Déjà, c'est déjà pas bon signe.
Mais,
même pas, parce qu'il y a Christian Clavier, parce qu'il y a un casting de l'eau, parce que c'est Patrice Lecomte aux manettes. Pourtant,
mais je suis pas sûr qu'il.
Non, il va pas faire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais il va quand même marcher. Il va suffisamment marcher pour que t'en aies une vingtaine derrière qui.
La famille Bélier, que j'ai vu, qui est un film gentillet, mais c'est pas.
C'est un film du dimanche soir,
c'est un téléfilm de comédie, comme on en voit 500 000 par an. Et. Le matraquage médiatique 2 semaines avant la sortie, dans le métro, à la télé, la nouvelle grande comédie française, mais c'était insupportable, quoi. Même si t'avais pas envie d'entendre parler du film, t'ouvrais la radio, t'entendais parler du film.
Au bureau, j'entends,
et c'est du matraquage, c'est juste plus possible.
Et justement, ça nous renvoie à notre sujet. Les Inrocs ont consacré un article sur le succès du film alors qu'ils le descendaient dans leur critique. C'est-à-dire que ils se sentent obligés de prendre en compte le mouvement de masse autour de ce film, parce que ça va faire des vues, quoi. C'est la réalité.
Oui, c'est un peu, donc, bon, je dirais, ça va pas plaire à Victor, mais c'est comme Avengers ou des gros blockbusters.
C'est ça, c'est tu compares la critique du cinéma des
t'as un matraquage incroyable derrière.
Mais c'est la génération, juste pour conclure, c'est la génération Twitter, Facebook. C'est-à-dire que j'ai entendu, je ne vais pas citer, mais j'ai entendu à plusieurs reprises des commentaires comme en soi disant je n'ai pas été invité à la projo d'un film parce que je n'ai pas eu, pas moi hein, personnellement, mais des gens qui m'ont dit ça, je n'ai pas été invité à la projo d'un film parce que je n'ai pas assez de followers sur Twitter, tu vois. Des trucs comme ça, des trucs que je trouve aberrants. C'est quoi la critique du cinéma aujourd'hui? C'est ça, quoi. C'est ça ce que recherchent les distributeurs. Mais gens qui ont beaucoup de followers sur Twitter et des gens qui ont beaucoup d'amis sur Facebook ou de j'aime sur Facebook.
Mais là, on est sur deux choses différentes. Oui. On est dans le marketing d'un côté et la manière dont les réseaux de distribution utilisent la critique.
Voilà, c'est ça, il y a ça.
Élément de marketing. C'est-à-dire que pour 90% des attachés de presse, on est de la communication et un budget com pour le film.
C'est bien, mais
tu sais que quand ils avaient fait la rétrospective, vous avez fait l'anniversaire le 20e anniversaire de la mort de Serge Dané, je crois.
Oui, il y a 2 ans.
Il y a 2 ans. Il y avait pas mal de tables rondes qui avaient été organisées. Et à une des tables rondes avait été invité Olivier Séguré, qui avait beaucoup travaillé avec Dané. Et Séguré disait aujourd'hui, enfin la table ronde c'était très. Il y avait une table ronde qui s'intitulait la critique au présent. Donc il y avait pas mal d'invités, t'avais Jean-Marc Lalanne, Axel Roper, etc., etc. Et tu avais Olivier Séguré qui était là et qui disait un truc très simple. Il disait, moi, au jour d'aujourd'hui, pour faire, allez, 4500 signes. Alors, 4500 signes, en termes journalistiques, c'est quoi? C'est, je crois, 3 feuillets. Un feuillet, c'est 1500 signes. Donc c'est 3 feuillets. Et ben, il faut batailler, ce qui est rien. Et que quand il disait, à l'époque, tu pouvais faire 2 pages sur Pelléquian.
Il faut batailler avec la rédaction.
Il faut batailler avec le directeur de la publication.
Avec le directeur de la publication.
Ce qui est différent. C'est qu'à l'époque, tu pouvais faire 2 pages sur Pelléquian, qui est un cinéaste complètement atypique, inconnu, etc. Mais qu'on a entendu parler. Tiens, il y a un truc qui se passe en URSS. À l'époque, c'était encore l'URSS. Il faut aller voir, d'accord. Bah, j'y vais. Je vais aller voir. Ah, c'est qui tes Pelléquian? D'accord, tac, j'ai vu tes films. 2 pages. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Donc, il y a, comme tu disais si justement, il y a le problème de l'économie qui fait qu'on n'a plus de temps. Voilà, on n'a plus de temps finalement, en fait. On n'a plus le temps. Le temps, qui est un élément peut-être pour moi très important, voire même primordial dans le cinéma, on n'a plus ce temps. Donc, on n'a plus le temps d'écrire, on n'a plus le temps aussi on n'a plus le temps de réfléchir à un film, de le revoir plusieurs fois pour pouvoir écrire dessus. Et on n'a plus l'espace, donc le temps nécessaire pour pouvoir parler de ce film. Donc, c'est malheureusement logique ce qui nous arrive. Et heureusement qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé en même temps, au moment où on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus avoir le temps, c'est qu'il y a eu Internet. Donc il faut faire... Et c'est peut-être pour cela aussi qu'il y aura toujours un problème au niveau de la cohabitation entre la presse écrite et Internet. Mais il faut dire ce qui est au jour d'aujourd'hui, en 2015... ce qu'il y a de plus sensé, de plus pertinent, de plus stimulant intellectuellement, et aussi si on veut être curieux, si on veut découvrir des choses, c'est sur Internet.
Ah, mais j'ai l'impression qu'Internet a ses avantages et ses défauts, c'est-à-dire qu'il te donne une pléiade d'informations, voire de la surinformation, mais en fait, par exemple, dans un film, d'un point de vue marketing, parlons de La Famille Bélier, t'as un matraquage médiatique 2 semaines avant, et finalement, en fait, la presse généraliste, même pas de cinéma, se sent obligée de parler de ce matraquage, puisque c'est l'actualité. Et ensuite, vient les spectateurs qui vont voir ce film, et qui, eux, font aussi un matraquage eux-mêmes sur les réseaux sociaux de ce film, et du coup, on s'aperçoit que c'est la communauté, donc les spectateurs, qui alimentent cette propre... C'est ce propre en fait cercle vicieux de matraquage marketing, alors qu'à la base, il fallait juste passer la bande-annonce à chaque film, dans la bande-annonce dans les films, il fallait mettre des affiches dans les métros. Du coup, tu as eu une grosse poussée de marketing pendant 1 ou 2 semaines, et après, finalement, c'est la communauté qui s'est fait toute seule, puisque c'est le buzz qui s'est alimenté de lui-même. Et du coup, d'un point de vue marketing, c'est vraiment, vraiment bien joué. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, c'est du bourrage de crâne, quoi. Tu n'as pas le temps, en fait, comme tu parlais du temps, d'aller voir dans les autres curiosités. Et tu as beaucoup de blogs sur Internet qui reprennent aussi qu'est-ce qui se vend. Et moi, je vais reprendre ce qui se vend pour faire du plus, pour faire du like. Et c'est le cercle toujours...
c'est un cercle vicieux.
Du coup, ça t'empêche d'aller voir autre chose
sur
qui
Internet,
sort à côté.
Il y a beaucoup
quoi.
De déchets aussi, il y a beaucoup de contenu très facile.
Mais c'est ça qui est beau.
C'est qu'il y a énormément de contenu, mais que 80% du contenu est du rabâchage.
C'est à nous après de faire.
Mais justement, le spectateur ne le fait pas. Mais il le fait pas. Nous, c'est comme
le spectateur par définition, il est intelligent.
Non, justement. Pour moi, il n'est pas intelligent.
Pas toujours.
Ah non.
Il doit être intelligent.
C'est pas ça que je voulais.
Non, parce qu'un spectateur lambda, moi, je suis un spectateur lambda. Je suis pas spécialement cinéphile, pas de critique. Le mercredi, je vais aller voir sur les sites de spécialiste, qu'est-ce qu'on me conseille, et après je vais aller faire toute la liste de toutes les sorties, je vais regarder toutes les bandes.
Mais c'est ça qui est important, qu'est-ce qui a fait que tu
aies
fait ça?
Il n'y en a pas beaucoup qui le font.
Mais qu'est-ce que t'en sais?
Il suffit de parler autour de toi, les gens ils vont voir les films qui sortent dans plus de 150 salles. Ce qui sort dans 5 salles, ils en ont rien à foutre. À part si le sujet, ça parle de
truc perso. Je suis peut-être trop optimiste, trop innocent, trop naïf, mais je continue encore à croire que le spectateur est très curieux par des films.
Pas forcément, il faut juste regarder le nombre de box-office, tout simplement.
Mais c'est pas
le box-office. Les gens ils vont voir ce qu'on leur demande d'aller voir, ils vont pas voir ce qu'ils veulent voir.
Habilité le plus intéressant au niveau des spectateurs, c'est à savoir quel est un spectateur qui va voir tel film, qu'est-ce qu'il en a pensé. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est pas forcément le box office.
Oui, mais
tu peux avoir 15 millions de personnes qui vont aller voir ce film, mais peut-être que c'est le plus important.
Je pense que tu as deux idées. Tu as l'idée en fait où tu as un matraquage où tu te sens obligé d'aller voir le film parce que c'est l'actualité du jour, et tu as le deuxième. Et ce qui scinde entre la critique presse et la critique publique, c'est qu'ils ont fondamentalement pas du tout les mêmes goûts.
Regardez. Xavier Dolan, en début d'année, il sort Tom à la ferme, 100 000 entrées à tout casser. Mommy a dépassé le million, parce
ça, c'est matraquage aussi.
L'émotion.
Ah
oui, matraquage, l'émotion brassée énormément.
Oui, il y a
Festival de Cannes.
Non, mais là, la bande-annonce avec le montage sur son discours.
Céline Dion, à la fin. C'est l'émotion.
Non, mais voilà,
tu leur montres un truc super populaire. Ils
disent en même temps sur Momie.
Sans Cannes.
Qui est d'ailleurs un très bon. Enfin,
oui,
non, mais Momie, c'est excellent. Mais justement, ça a brassé de l'émotion et les gens adorent l'émotion. Tu vas aller voir Revoir l'été, les gens, je me fais chier. Alors, moi, pourtant, je me suis fait chier un petit peu dans le film. Mais quand j'en suis ressorti, je me suis dit, putain, mais c'est magnifique.
Il faut faire attention. Mais la presse, après, quoi, la presse a fabriqué une star avec Xavier Dolan. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu devenu le rôle de la critique, et notamment des cahiers du cinéma.
Il a pris le melon aussi.
Et puis en fait
c'est vrai qu'il allait avoir la palme. En plus, c'est abusé.
Juste tous ces. Moi, je préfère qu'il fasse des très beaux films.
Oui, non, mais c'est clair.
En plus, ça a dépassé, avec David Dolan, ça a carrément dépassé le cadre juste du cinéma. C'est-à-dire qu'ils en ont fait carrément un instrument politique à un moment générationnel, avec ses propos par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, on l'a utilisé presque comme arme de destruction massive contre les critiques.
Sur le mariage.
Les critiques un peu.
Voilà, c'est ça. En profite, parce que ça va durer longtemps.
Oui, ça date depuis la vie des gens, mais
ça se compare. D'ici 2-3 ans, ça va redescendre. Ça sera plus du tout.
Pas tous en même temps, parce que ça devient.
On l'a comparé au phénomène Wong Kar-wai aussi, qu'on avait monté très haut, et qui finalement aujourd'hui indiffère un peu tout le monde. Et je pense que. Voilà.
Et c'est vrai que ça peut marcher dans ce sens où effectivement il y a une adéquation entre la médiatisation et la starification d'un metteur en scène, ou la manière de rendre un film, et ça a marché pour Momie. J'aimerais parler d'un autre exemple d'un film français qui est Eden de Myrnsen Love, où j'ai l'impression que justement la stratégie médiatique n'a pas du tout marché, parce que le film a été présenté au public comme un film sur la French Touch, Daft Punk, et c'était pas du tout ça. Et c'est vrai que quand je suis allé le voir, les sièges claquaient dans la salle, parce que c'était pas le film que la presse, je me rappelle la couverture des Unrock sur Génération Daft Punk, ou un truc comme ça, que la presse, que les médias, que la bande-annonce, que le buzz avant le film avait monté. Donc il peut y avoir aussi un retournement, effectivement, quand
le mensonge était trop gros. Quoi.
Ouais, tromperie,
c'est c'est comme la famille Bélier qui a été survendue, où finalement le film aussi n'est pas ignoble, tout le monde va aller voir. C'est qu'il n'est pas franchement bon, mais il n'est pas franchement mauvais, donc tout le monde va aller voir. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est pareil, il n'est pas franchement mauvais, mais il n'est pas bon non plus.
Beaucoup. Enfin là, il a des idées vraiment. Surtout le problème de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est que c'est très très mal joué. Enfin, je comprends même pas comment. Moi, je vois plein de gens qui disent putain, les acteurs sont très bons, mais t'as jamais vu un.
Ça fait peur, moi.
Il a 20 millions. Quand tu me dis que le spectateur a des gens, je me pose la question quand je vois ça.
Mais arrêtez.
Mais non, mais c'est ses goûts, tu vois, c'est qu'on a.
Par nature, par définition, il est intelligent, c'est obligatoire.
Il y a quand même 20 millions d'intelligents qui sont allés voir ce film, dont moi.
Fin 2008.
On est tous allés voir.
S'il me considère
ça fait peur.
Je me rappelle, fin 2008, à la radio, un ami m'avait invité à parler à Aligre FM, faire le bilan de l'année 2008. Et je déplorais qu'un film comme Dernier Maquis de Rabah Meurzaïmaj soit passé inaperçu. Là où les ch'tis avaient pris 20 millions. Je me rappelle de ce jour-là, je m'étais un peu mis en colère à la radio. Par rapport à ça, c'est vrai que le film avait été défendu par la critique, Dernier Maquis, là où on avait descendu.
Certaines critiques, pas tous. Hein. Pas toutes les critiques.
Enfin, globalement, je pense qu'il avait été assez mis en avant. Mais
le Parisien ne sera pas pour le Dernier Maquis. Ni le Figaro d'ailleurs.
Mais c'est vrai que je déplorais effectivement ça, le fait qu'il n'y ait pas une assez grande visibilité pour ce cinéma-là, un peu minoritaire. Et voilà, quoi, je me demandais quel était encore le rôle de la critique, quel était encore son pouvoir.
Justement, je soulève une autre interrogation pour Samir, parce que tu es vraiment spécialiste média, que moi pas du tout. C'est que quand je vois sur les affiches, en fait, ce film est un chef-d'œuvre signé L.
Il n'existe pas.
Ça fait peur quand même. Je me dis,
mais même.
Où est passée en fait la scission entre les critiques de cinéma comme les Cahiers, Positifs, Libé ou Figaro et tous les autres. Moi je vois une affiche avec que des médias généralistes, mais c'est un mauvais film.
Et les messages Twitter,
c'est un mauvais film.
Les messages Twitter, maintenant t'as des affiches avec les avis Twitter des gens.
Mais ça fait peur.
Oh,
moi, ça dénote un préjugé sur la qualité du film. Quand je vois ça, j'ai le préjugé inverse. C'est comme quand il est pas là, mais quand Yannick aime un film de série B, je sais que je vais pas aller le voir. C'est un critère. Mais je lui ai dit tout le temps. Je le sais.
Ah, d'accord.
Mais justement, c'est bien parce que je sais que quand je vais avoir un journaliste qui va me faire une critique super positive d'un film, je sais que de toute façon, j'ai vu beaucoup de films qu'il a critiqué positivement et que moi j'ai pas aimé, je lui dis merci mec, je sais que je vais pas aimer.
Nicolas.
Il a son rôle, il joue son rôle. Mais il joue son rôle, mais c'est important. Quand tu regardes là sur un film, je sais pas, il y en a beaucoup de films où toute la critique en fait dit oui c'est bien, et t'as les Cahiers du cinéma, c'est le seul média qui te fout qui est complètement à l'opposé du reste. Tu te poses des questions aussi, quoi.
Mais c'est ça qui est intéressant, parce que ça fait chier.
Oui, mais les
caïdistes... ça commence à créer un dialogue, c'est bien.
Oui, ça a créé, mais j'ai l'impression que c'est volontaire. C'est volontaire. Sur Whiplash, par exemple, les caïdistes cinéma disaient que c'était la même scène qui se répétait en boucle.
Oui, ils avaient fait la même chose pour le Dardenne.
Mais voilà, mais tu dis que c'est volontaire, quoi. C'est pour justement pousser dans la... C'est de la provoque, c'est un côté provoque, ça n'a pas un côté critique.
Le côté... Enfin, pardon, excuse-moi.
Non, mais voilà, après, j'ai pas lu
la question. Tu parlais des étoiles hallucinées.
Oui, moi, je suis pas
consulté par beaucoup de monde.
Par tout le monde, même par la
critique. Avant, t'avais plein de magazines, même très spécialistes.
Oui, Chronicart, t'avais tous les...
Voilà, tous les trucs comme ça. Maintenant, c'est quoi ta femme actuelle? GQ, Télé 7 jours, elle, mais tu fais « Oh les gars, vous vous foutez de ma gueule là, c'est vraiment pour amener des gens à amener le plus de vues possible ou le
temps généralisé. » Donc on en revient à la question essentielle, est-ce qu'il existe encore une critique de cinéma?
Elle est minoritaire et en plus elle est mal gérée. Là,
c'est un peu comme pour le cinéma tout court, pour moi il n'y a pas de mort de la critique de cinéma, c'est simplement que...
La critique...
On a la critique... Enfin, chaque critique de cinéma, c'est chaque génération... Quand je disais, peut-être de manière assez radicale, je l'avoue, que la critique du cinéma actuelle, surtout, moi je tape surtout sur la génération que je connais, donc la mienne en l'occurrence, hein, je tape pas sur les autres, hein, je ne me permettrai pas, donc la mienne en l'occurrence, il est vrai qu'il y a très très peu de critiques de cinéma qui sont assez curieux. Il y en a un que je trouve qui reste encore assez curieux dans notre génération, je sais pas, je crois que si tu seras d'accord avec moi, il y a Vincent Maloza qui voyage. Voilà. Non mais attends, c'est ça qui est super important.
Qui voyage, mais il est aussi dans le côté, mais enfin, quand je dis ses postes,
il continue encore à te dire,
j'ai du mal avec son traitement, parce que lui il dit 5 raisons d'aller voir, 5 raisons de ne pas
c'est
aller
différent.
Voir. Ça aussi, c'est un traitement, qui surfe un peu sur l'actualité.
C'est ça qui est intéressant.
C'est vrai qu'il a un côté curieux très très bien, quoi.
Et c'est ça moi qui m'intéresse, en fait. C'est ça, enfin, personnellement, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que lui s'adapte au support pour lequel il travaille. Alors, c'est le Nouvel Ops, c'est ça.
Le plus Nouvel Ops.
Ce qu'il va faire sur le Plus Nouvel Ops, il ne le fera pas pour les cahiers du cinéma. Comme François Truffaut, ce qu'il faisait pour Art, n'a pas fait pour les cahiers du cinéma. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est quelque chose qui date depuis la nuit des temps. Bref, moi ce qui m'intéresse, c'est quand un gars, un critique de cinéma, me dit « Moi j'ai vu tel film à tel endroit, où est-ce qu'il l'a sorti ce film ? C'est pas possible. » Et donc quand je parle de curiosité, c'est ça en fait.
C'est génial, ça.
C'est ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quand imagine, moi je parle d'un critique de cinéma, des cahiers du cinéma ou des Arocs ou des journaux que je continue encore de lire parce que ça m'intéresse, qui me dit, de par son écrit, qui me dit « Moi j'ai beaucoup aimé Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Là ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu qui me permet d'avoir un dialogue avec lui. Moi, je trouve ce film complètement, limite dégueulasse par rapport à plusieurs aspects qui plus est, enfin voilà, nous touche. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la curiosité et parce que aussi par rapport à ma petite expérience de directeur des rencontres, enfin d'un festival de cinéma, enfin programmateur d'un festival de cinéma, je me suis aperçu que il y a des films qui se font, qui sont très intéressants, qui proviennent d'une certaine cinématographie et qui sont mis de côté, qui ne sont pas vus par la critique de cinéma. Et moi, j'ai été bercé par des écrits de Truffaut, d'Année, etc., qui, eux, disaient, il faut être curieux, il faut aller voir.
Mais on est d'accord. C'est très triste.
Donc, ça ne me surprend pas qu'il n'y ait que 4-5 films du Japon qui sont montrés ici ou qui sont parlés. Enfin, quand on questionne, ça me surprend pas, mais en même temps, je ne suis pas cynique. Ça ne me surprend pas et en même temps, ça m'attriste.
Ah oui, c'est très frustrant.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a Internet, qu'il y a des sites comme Instagram.
On revient à l'intelligence du spectateur, c'est qu'il y a...
Je suis spectateur comme toi, là-bas.
Je suis un peu l'effet Midnight to Paris de Woody Allen, où en fait, où c'était mieux avant. Alors que le gars d'il y a 20 ans trouvait que c'était mieux 20 ans avant, et le gars de 20 ans avant était encore et trouvait que c'était mieux 20 ans avant. Quoi.
Mais c'est ça qui est très fort dans ce film.
Ah oui, c'est ça qui est génial.
C'est pour ça que c'est pas un film passéiste.
Non, pas du tout. Et j'ai peur de la génération, déjà de la génération présente, j'ai encore plus peur de la génération future. Quoi.
Tu sais que nos parents avaient peur d'autres générations.
Ils ont raison. Ils ont raison, ils ont raison. Mais ça fait peur, mais ça fait peur. Et quand tu vois la critique qui est bombardée de Elle, de Le Parisien, de trucs, où il y a, enfin, je sais pas, mais...
Non, mais Le Parisien Non, mais ça les... reste généraliste, mais il y a encore quelques années, c'était pas honteux leur critique.
C'était pas honteux, mais c'est comme Le Monde. Mais... Le Monde, c'était pareil. Avant, quand même, c'était quand même. Ils faisaient des belles critiques de
mais
cinéma.
Là, les dernières années, Le Parisien, enfin, avec c'est Alain Grasset, je crois, et... mais il faut voir la tronche des critiques, quoi, même. Hein,
mais oui, mais je regarde même plus, quoi.
Je suis désolé, mais c'est un peu le cas pour une grande partie de la presse écrite. On a parlé de ce film qui continue à faire des articles de journalisme, mais sur la presse généraliste, on parlait par exemple de Lalanne, de Kagansky. Alors, Antenne, je trouve que ce sont des bons critiques de cinéma par ailleurs, ils l'ont prouvé. Ils ont écrit des choses intéressantes, mais il n'y a pas la place.
Ils n'ont plus de place.
Ils n'ont plus de place. Il n'y a plus aucune critique dans les Inoccupables. Il y a une double page.
Même sur Internet, maintenant, c'est des petites critiques de deux paragraphes. Ils te présentent le film, ils te balancent deux, trois arguments, et c'est tout.
Sur Titanic, ça suffit pas. Enfin, qui continue encore pour moi à être fascinant. Il y a un gars qu'on a tendance dans les réseaux sociaux à beaucoup enfin à taper dessus, enfin c'est Jean-Baptiste Morin, mais moi je me souviens très très bien de ses premiers articles.
C'est lui qui
va
sur les gens, pardon.
Oui, je sais, excuse-moi Victor, c'est plutôt... mais moi je me souviens de ses premiers articles, c'était extraordinaire, enfin j'avais l'impression, déjà d'une part de dialoguer avec lui, d'apprendre des choses, c'est... Après, il y a l'économie, lui, qui fait que...
Effectivement, c'est en ça que je ne leur jette pas forcément la pierre aux critiques et à leur curiosité, parce que...
Bah, ils doivent vivre, c'est ça, le truc.
Il n'y a pas de critique dans les Inrocks, il n'y a pas de critique dans Terra, il n'y a pratiquement pas...
C'est ça qui manquerait un mécène, en fait, qui n'a pas 10 millions d'euros et qui a... Voilà le budget pour l'année, faites-en ce que vous voulez.
Quand tu dis qu'il n'y a pas de critique, qu'est-ce qu'une critique?
Faut prendre des...
Est-ce qu'une critique, c'est quoi?
Est-ce qu'on peut se le permettre?
Alors, je dirais une critique qui sort... Il y a deux discussions en même temps, mais je dirais une critique qui sort de la prescription pure. En quelques lignes, c'est-à-dire dire pourquoi ce film est bien ou n'est pas bien.
Mais t'as pas le droit de dire que ce film est bien ou pas bien.
Mais c'est qu'un critique. Mais non, tu dois te baser sur les faits, en fait.
Les critiques qu'on trouve dans la
presse. Voilà, il y a une certaine lenteur, il y a des plans séquences.
Ah oui, il faut voir ce film. C'est une critique et quelque chose qui sort de ça, qui sort de cette critique prescriptive, qui dit ce film est bien ou pas bien, ce film il faut aller le voir ou ne pas aller le voir.
C'est comme les notes sur les Stasia où on les a enlevées, justement. Il n'y a plus de à voir, pourquoi pas.
On a une critique. On a décidé d'enlever les notations sur.
Pour forcer le spectateur intelligent à lire notre critique et pas sa note.
Et il fait l'inverse.
Alors qu'avant, quand tu vas au ciné, t'as le classement et tu regardes, attends, 5 étoiles, je m'en fous ce qu'il écrit, mais 5 étoiles, faut que j'aille le voir.
Ouais, non, mais
c'est un problème. Contrairement à toi, je trouve pas qu'Internet soit l'Eldorado que tu décrivais tout à l'heure, parce que cette idée existe aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi une critique prescriptive et tout le monde se fait prescripteur. C'est-à-dire que tout le monde a un compte Twitter, tout le monde fait des critiques sur Internet, tout le monde peut faire un blog, et donc tout le monde va se trouver légitime de donner son avis sur un film.
Et tout le monde est égaux, en fait.
C'est aussi récupéré par les attachés de presse, par les distributeurs, qui vont utiliser cette envie du spectateur moyen qui va s'improviser critique, d'avoir accès à des DVD, d'avoir accès aux projections de presse, s'il va dire du bien d'un film. Et à partir de là, il entre uniquement dans une logique de communication. Mmh. Et Internet participe aussi de cette logique de communication.
Cette instrumentalisation.
Mais c'est un courage de crâne.
Pas pour tout, hein. Mais répète ce schéma-là aussi.
Mais je dis deux petites choses. La première, enfin, je reprends la phrase de Trouveau qui disait que tout le monde est critique de cinéma. Enfin, on a deux métiers, on a le nôtre et critique de cinéma, donc ça rejoint ça. Pour quelqu'un, enfin, je veux pas rentrer dans le misérabilisme et tout, mais... J'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de vivre dans un autre pays qui est la France, dans un pays où il n'y avait pas d'industrie du cinéma. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris ce que cela signifie, le mot « industrie », hein, c'est-à-dire circuit de distribution, diffusion, production, etc. Quand tu vis dans un pays où il n'y a pas une industrie conséquente comme en France, je t'assure qu'Internet, c'est un Eldorado.
Oui, c'est génial. Quand t'as rien en fait et que c'est à toi de construire, c'est génial.
Comme tu peux. Tu sais qu'il y a des. Enfin, je vais pas commencer à vous. Enfin, je veux dire.
Moi, c'est la construction. En fait, il faut détruire pour reconstruire.
Voilà, là pour le coup, je parle vous vraiment voyez, en tant que spectateur, voire auditeur. Enfin, je vous ai beaucoup écouté. Enfin, je vous ai énormément écouté quand je ne vivais pas en France. Donc, j'entendais des films que je ne voyais pas, mais que peut-être je savais qu'ils allaient à un moment ou à un autre arriver sur Internet, des films qui ne sont jamais sortis en France et qui à un moment sont arrivés sur Internet. Bah, c'est grâce à vous que je me suis dit, tiens, il y a certains films, il faut aller les voir, il faut aller les dénicher, et puis voilà. Donc après, il faut vraiment faire attention à la spécificité du spectateur, à son origine, à sa géographie, mais Internet, parce que j'ai vécu 3 ans dans un pays où il n'y avait pas d'industrie de cinéma, Internet est un véritable Eldorado. Hein. Après, c'est à toi, avec ton mental, avec ta manière de voir les choses, de faire le tri. Ouais. Et il y a effectivement... Mais tu vois, je préfère... Moi, ça m'intéresse quand je vais... Enfin, ici, je me balade dans la rue, je suis agressé par la publicité qui me dit « il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». Sur Internet, il y a de tout. Après, c'est à moi. Et quand je parle d'intelligence, en fait, je parle de bon sens, c'est à moi de faire le tri.
Je pense que les gens n'ont pas de bon sens, tout simplement.
Bah, tu sais qu'on est foutus, alors,
c'est ça.
Oui, tu penses qu'on est foutus depuis bien longtemps. C'est le problème, c'est que...
Attends, t'es hyper jeune, t'es peut-être...
T'as vu le vent se lève, tu peux pas être foutu, merde, c'est beau. Le
t'es l'un des plus jeunes, bah, t'es l'un des plus jeunes d'entre nous, et t'en arrives à ce genre de conclusion de la fin de tout.
Enfin, c'est pas triste, elle lui dit de vivre. Elle lui dit à la fin, il faut vivre.
C'est pas un rêve à la fin,
mec. Il faut essayer de vivre.
Mais justement, quand tu... Non, les gens sont pas intelligents.
J'arrive pas à être totalement plombé, moi. Je sais pas.
Les gens ont pas envie de réfléchir. Ils veulent du divertissement et ils veulent surtout que. Ils veulent en parler, ils veulent qu'on parle d'eux. Donc si tu vas voir un film, tu vas pas le voir en fait pour toi, tu vas le voir pour ce que. Parce que les autres ensuite vont te demander d'en discuter. C'est pour que tu puisses en discuter, c'est pas pour toi en fait que tu vas voir le film.
Mais pourquoi t'es là, par exemple?
Justement, on est là.
Il est chez lui déjà. Non, mais ça va, ça va. Mais il est autour d'un micro, il est autour d'un enjeu.
Non, mais ça va. Non, mais on est là parce que justement, il y a. On est là parce qu'on est réunis, en fait, c'est un rassemblement de cinéphiles, de passionnés.
Ouais. Pour faire quoi, en
pour
fait
parler de cinéma
qui nous tient
à cœur. Pour nous et pour, pour cette autre communauté qui est très minoritaire.
Donc
par rapport au reste de la population. On parle à des gens comme nous. Exactement. On parle à des gens comme nous.
Quand vous publiez le lien de tous les podcasts que vous avez fait, chacun d'entre nous, enfin moi, je publiais sur mon compte Facebook, il y avait des gens qui écoutent, il y avait des gens, enfin je vivais.
Des gens de la même communauté.
Non, en Algérie, pendant 3 ans, j'ai vécu, il y avait des gens qui me disaient qu'est-ce que
Isasia,
qui n'avait rien.
Dans une communauté où il n'y a pas d'industrie.
C'était ça,
dans une communauté où il n'y a pas d'industrie.
L'Afrique, t'as dit au monde. Non, parce que c'est ça, c'est pour ça que je continue encore à croire. Mais moi, ça.
Mais oui, mais justement, t'as une situation très particulière parce que t'es en France où il y a une industrie énormément, où il y a du matraquage, il y a de la médiatisation de partis, et t'es dans l'autre pays, l'Algérie, je crois.
Exactement.
L'Algérie, où justement, c'est en construction, on va dire. Du coup, le public est extrêmement curieux. Donc, c'est pour ça que pour ça que toi, tu vois peut-être le spectateur plus intelligent, parce que tu vis dans un pays où sans doute où il n'y a rien, où donc le spectateur est par définition curieux, alors que nous, on est dans une industrie française où on est agressé continuellement, matraqué, où on n'a pas le temps, on n'est plus curieux. Et qu'il y a, existe heureusement et bien évidemment une petite communauté qui est curieuse et qui en fait en discute parmi eux. C'est le principe même d'une communauté, c'est qu'on parle aux gens qui ont la même passion et que tu peux parler de Gone Girl ou d'un film auteuriste à quelqu'un, il va t'écouter et en fait il s'en fout.
Mais là où je te rejoins sur... Moi je me dis que j'allais te contredire en disant oui, mais t'as vu le nombre d'événements cinématographiques autour de la cinématographie asiatique qui se créent démontrent peut-être que le public est
le centenaire du cinéma chinois et ça fait mal. Et là, tout le monde s'en fout.
J'allais te contredire en disant ça. Et je pense à Victor qui nous disait non, il y a quand même des événements qui commencent, qui n'existent plus.
Rétrospective aux zooms, mais personne.
La cinémathèque reste des événements, mais
ils sont mal communiqués.
De moins en moins soutenus. Il n'y a pas de budget pour la communication.
Si en tant que critique de cinéma, voire de spectateur, je me dis que en fait.
Même dans la restauration, en fait, maintenant, en fait, ce qui est pour moi une bonne solution, c'est qu'on restaure beaucoup de films. On remasterise tout ça et on remet des sorties. Sauf qu'on remasterise des chefs-d'œuvre, donc c'est l'essentiel du cinéma et je trouve ça très bien. Mais encore une fois, on va pas remasteriser des films d'il y a 20 ans qui étaient elles-mêmes des pépites méconnues. On va pas les remasteriser et donner en goût encore cette curiosité. Tiens, bon là je vais voir le dernier Fellini, je vais voir plein de trucs hyper connus. Bon, je les ai jamais vus, mais je vais la revoir en HD. Ouais, c'est super, c'est très bien pour ça.
Extrêmement cher, une restauration.
Mais oui, mais justement, voilà. Donc le public en fait, lui, il veut aller sur l'essentiel, sur le divertissement, sur ce que tout le monde connaît. Il veut pas aller chercher les petits films d'à côté. Il y en a pas beaucoup.
Cinéma classique, je pense que c'est autre chose. C'est
oui, aussi une autre sur le marché du cinéma classique, on est d'accord. Mais on s'adresse à des communautés, en fait. Voilà, c'est des communautés.
Se pose la question de pourquoi va-t-on au cinéma? Est-ce qu'on y va pour être dans l'air du temps ou est-ce qu'on y va parce qu'on a un lien avec le cinéma? Un lien réel.
Pour les trois. Pour les deux et les trois.
Parce qu'il pleut et que c'est une occupation.
Parce que c'est un divertissement, c'est pour passer le temps. 90% c'est pour passer le temps. Ils veulent pas réfléchir, les spectateurs.
Moi, comment dire ça? J'ai pas l'impression d'être marginal.
Et tu réfléchis quand tu regardes un film. Tu réfléchis.
Disons, quand je sélectionne le Godard ou le Dardenne, oui, je vais voir ces films parce que c'est des films qui je sais.
Mais même un film de divertissement, ça va te faire réfléchir.
Oui, je vais voir qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu.
Mais les gens, non. Les gens, ils veulent de l'émotion.
Le dernier film de Dardenne, quand tu vois Marion Cotillard, c'est un putain de film de divertissement. Ben voilà, il y a du divertissement.
Mais du spectacle, en fait. Mais justement, ça c'est l'issue d'une réflexion.
T'es ironique. Oui, je suis ironique.
D'accord.
Mais ce que je veux dire, c'est que...
Non, mais voilà. C'est l'issue d'une réflexion, quoi.
Il y avait un jour, je discutais avec un copain qui me disait vouloir aller à tout prix. Enfin, c'est très naïf ce que je vais dire, mais désolé. Ben, il me disait, moi, j'adore me rendre dans... Enfin, aller dans une salle de cinéma, j'ai l'impression d'être protégé.
Ouais, c'est vrai, mais il est dans...
Je lui dis, mais de quoi? Mais j'ai l'impression d'être protégé, je suis là-dedans.
Il est dans son monde, il est dans l'obscurité.
Je vois les gens qui voient le ciné, qui voient le film, j'ai l'impression d'être protégé. Enfin donc, et c'est pas un critique de cinéma, c'est même pas un journaliste,
non.
C'est un spectateur lambda.
Ah ouais, ouais, je conseillerais de lire les critiques d'Allociné, les critiques publiques. Ce film est génial, les acteurs sont drôles, c'est émouvant. 90% c'est ça. Le scénario ne tient pas debout, les acteurs sont nuls. Tu vois, les critères sont complètement différents des nôtres. On va pas dire, oui, c'est une réflexion intéressante sur l'esclavage.
Mais ils te lisent.
J'en doute. Moi, il faut m'amener des preuves, alors. Non, mais il faut m'amener des preuves.
Je pense que c'est un débat qui est très large.
Ah oui,
qui est interminable.
C'est génial.
C'est très complexe.
Alors, on est un peu sorti de l'Asie. Je propose de revenir à quelque chose d'un peu plus concret, justement, comme on parle là. On a parlé beaucoup de la critique. Et de parler des films dont on a parlé cette année ou des films dont on n'a pas parlé, donc qui vous ont marqué, quels étaient les films et les petites pépites que vous avez pu découvrir.